Quand les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Ahom. Dans la présentation de la voie de la libération, la voie du Dharma, voie de libération, nous avons vu la complémentarité de différentes approches que l'on nomme voie, véhicule, yana. Nous avons vu le yana, la voie, l'approche fondamentale qu'on nomme hinayana, qui est la voie de la pleine présence dans sa discipline, son intention. Il y a maintenant la voie de l'ouverture et de la compassion, que l'on nomme le Mahayana. Mahayana, c'est la grande voie, la voie ouverte, que l'on dit aussi universelle, ouverte sur soi, ouverte sur le monde. Et sa caractéristique dans son ouverture est d'être la voie de l'empathie, de la bonté, de la bienveillance, de l'altruisme, de la compassion. La pleine présence est présence attentive, présence ouverte, et cette présence est dotée d'une qualité d'empathie, qui est le fond de la compassion, le fond de l'amour, de la bonté. Et c'est cette dimension d'empathie, de compassion dans l'ouverture qui se trouve développée, amplifiée, cultivée dans l'approche du Mahayana. Ainsi, le chapitre commence du Hinayana au Mahayana. Quand dans le cheminement Hinayana se développe une motivation altruiste orientée vers le bien et le bonheur de tous les vivants, c'est-à-dire lorsqu'est engendré l'esprit d'éveil, bodhicitta, la voie du Hinayana devient celle du Mahayana. Donc, la voie de la pleine présence, avec présence attentive, présence ouverte, cette discipline de présence et d'attention à une discipline de vie, se trouve transformée en la voie ouverte universelle du Mahayana lorsqu'il y a une motivation altruiste, une motivation de bienveillance universelle. Lorsque c'est bon pour tous. Il ne s'agit pas d'être dans un développement individuel ou personnel, mais d'avoir une motivation d'empathie ou une attitude d'empathie et dans celle-ci une motivation de bienveillance universelle. Dans le cadre de cette motivation de compassion, le grand véhicule, le Mahayana, est d'abord la compréhension, puis l'expérience du fait que les phénomènes sont fondamentalement illusoires, que leur nature profonde est vacuité. Donc, dans le Mahayana, il y a la dimension de bonté, de compassion, avec cette motivation altruiste, et une dimension d'intelligence qui est celle de la nature de la réalité dans son caractère illusoire. Les projections que nous vivons comme réalité habituelle sont foncièrement illusoires, sont profondément vides. Leur nature profonde est vacuité. Dans le même temps, du fait de cette compréhension, se développe spontanément une immense compassion à l'égard de tous les vivants qui demeurent prisonniers des illusions et souffrent trompés par leurs propres projections. La compréhension de l'illusion amène à plus de compassion lorsque l'on voit comment les vivants s'illusionnent, aspirent au bonheur, mais saisissant des choses comme un réel, se créent leur propre souffrance. Quel dommage! Et c'est là un élément d'expérience de profonde compassion. Et ainsi, la compréhension de la vacuité et la compassion universelle sont les deux piliers du Mahayana. Compréhension et compassion, qui sont, comme on le dit certaines fois dans une métaphore, les deux ailes de l'oiseau qu'est le pratiquant, et c'est avec ces deux ailes de compassion et de compréhension qu'il peut s'envoler au firmament de l'éveil. Un instant de contemplation. Le chapitre 1 nous présente Bodhicitta et l'engagement de Bodhisattva. Nous allons voir. En exergue, une stance du Bhadracharya Pranidhana, le Sanchomen Lama en tibétain, qui dit, en exprimant cette motivation de bodhicitta, cette motivation bodhisattva, bodhicitta est la motivation des bodhisattvas, les vaillants, ceux qui ont la vaillance de s'éveiller. Quand seront atteintes les limites de l'espace, quand les êtres animés seront tous éveillés, quand le karma et les passions seront épuisés, alors exaucé, mon vœu arrivera à son terme. Le vœu de Bodhisattva qui est de secourir tous les vivants avec bienveillance, une bonté universelle, de secourir tous sans exception, jusqu'à ce que tous soient libérés et délivrés. Bodhicitta signifie littéralement esprit d'éveil. Alors, body a le sens d'éveil et citta a le sens d'esprit ou de cœur-esprit. Donc, bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil ou c'est le cœur-esprit d'éveil. On pourrait encore dire l'esprit du cœur, l'esprit d'éveil du cœur, ou même l'éveil du cœur, l'éveil de l'intelligence du cœur. Donc, c'est bodhicitta et tout cela. Cœur-esprit éveillé, éveil du cœur-esprit. C'est une attitude d'esprit orientée vers le bien d'autrui, fondée sur la bonté, l'amour et la compassion. Et cette bonté, amour, compassion est une expérience, une qualité d'être naturelle dans l'ouverture de la pleine présence, dans l'empathie de la pleine présence. C'est en prenant vraiment conscience des souffrances de tous les vivants, en prenant vraiment conscience, dans la pleine conscience et dans la pleine empathie avec tous les vivants, que nous commençons et pouvons éprouver envers eux un amour et une compassion authentiques. Cette prise de conscience ou cette pleine conscience se développe par notre reconnaissance de la souffrance d'une personne qui nous est particulièrement proche, envers laquelle nous pouvons éprouver facilement de la compassion et avoir naturellement un état d'esprit bienveillant. Donc, il y a toute une méditation, un entraînement Tu commences par découvrir que l'on est sensible, empathique, réceptif, dans certains cas, avec des personnes que l'on aime particulièrement, qui nous sont proches, qui nous sont chères. Donc, on touche son potentiel de bonté, son bon cœur dans ces situations. Et à partir de là, on apprend à le cultiver, à le développer de proche en proche. Souhaiter secourir, aider une personne, un être, et avoir à son égard de la compassion et de l'amour est le point de départ de bodhicitta. Mais il s'agit progressivement d'éprouver amour et compassion envers tous les êtres, tous les vivants, humains et non humains, amis ou ennemis, dans une extension progressive. Faire naître en nous l'esprit d'éveil, bodhicitta, en éveillant notre cœur et notre esprit, permet de progresser rapidement vers l'état de Bouddha. En effet, pratiquer bodhicitta développe un immense karma positif. Et si être aimant, compatissant et bienveillant envers un seul vivant est très bienfaisant, l'être envers tous les vivants l'est infiniment plus. Donc, cette motivation bienveillante, altruiste, est un facteur d'éveil et constitue l'état dans lequel on s'éveille, sans dépasser son égoïsme, sans expérimenter une empathie véritable, une compassion authentique, universelle, au-delà des saisies de l'ego et de la petite bulle de l'ego, il n'est pas d'éveil véritable. Le Bouddha Sakyamuni enseigna que si le karma né de la pratique de bodhicitta était visible, il serait tellement grand que tout l'espace ne pourrait le contenir. En cultivant bodhicitta, ce cœur éveillé, cet esprit de l'éveil, grâce à son pouvoir, il est possible de réaliser l'état de Bouddha en une seule vie. Cette attitude altruiste et bienveillante d'amour et de compassion est souvent appelée la pierre philosophale. Tout comme la pierre philosophale transforme en or les métaux ordinaires, bodhicitta transforme en pratique vers l'éveil toutes les activités de la vie ordinaire, quelles qu'elles soient. Quelque activité de la vie ordinaire, familiale, professionnelle, que nous accomplissions, si celle-ci est accompli avec bodhicitta, avec cette bienveillance universelle, cette bonté ouverte, cette activité, quelle qu'elle soit, devient une pratique d'éveil, devient une pratique du dharma. C'est ainsi que bodhicitta est véritablement la pierre philosophale qui transforme notre vie en une vie d'éveil lorsque nous la portons en nous. Une petite pause. Nous allons voir maintenant les différents aspects de bodhicitta. Bodhicitta, l'esprit d'éveil, à deux niveaux, le niveau ultime et le niveau relatif. La réalisation de la nature fondamentalement vide de tous les phénomènes est bodhicitta au niveau ultime. L'attitude de compassion à l'égard de tous les vivants est bodhicitta au niveau relatif ou relationnel. Donc, il y a l'expérience d'éveil du cœur et de l'esprit au niveau ultime, c'est l'expérience de la nature de la réalité. Et l'expérience de bodhicitta, de cœur et d'esprit éveillé au niveau relatif, relationnel, dans une relation d'empathie, de bonté, d'amour, de compassion. Ces deux niveaux. À son niveau ultime, bodhicitta est l'expérience de la nature pure de l'esprit. C'est la réalisation du non-ego, la vacuité. Au niveau relatif, bodhicitta a deux aspects, bodhicitta comme motivation et bodhicitta comme pratique. Alors, bodhicitta est d'abord une motivation de bonté, de compassion. Bodhicitta comme motivation consiste à souhaiter arriver à l'éveil pour le bien de tous les vivants. Sur la base de cette motivation, il s'agit de passer à la pratique, d'appliquer cette motivation dans la vie pratique. L'aspiration à aider autrui n'est pas suffisante, tout comme il ne suffit pas de vouloir se rendre dans un lieu pour y arriver. Encore faut-il faire le chemin. Et bodhicitta comme pratique consiste en l'exercice des six perfections ou vertus transcendantes. Donc la pratique va consister en l'exercice des six vertus que nous allons voir. Une histoire avant qui illustre les bienfaits de Bodhicitta. Le Bouddha en enfer tirant un chariot. Dans une de ses existences antérieures, celui qui allait devenir le Bouddha était né dans un état infernal. Attelé à un chariot qu'il devait tirer avec un compagnon d'infortune. Ils essayaient de toutes leurs forces, mais ensemble ne pouvaient le faire avancer. Les gardiens avaient beau les fouetter et les piquer avec leurs armes brûlantes, la tâche était au-dessus de leurs capacités. Alors, le futur Bouddha eut un sentiment de compassion profonde pour son compagnon. Il pensa que, ne pouvant faire avancer le chariot, il était inutile qu'ils soient deux à souffrir, et s'adressa alors au gardien. Libérez mon compagnon, je tirerai le chariot tout seul. Les gardiens s'irritèrent et répondirent: Comment pourrais-tu faire seul le travail que vous n'arrivez pas à faire à deux? En colère, ils le frappèrent si fort qu'il en mourut. Par le pouvoir du karma de sa bonne intention, il quitta les états infernaux et reprit naissance en un état divin. L'engagement de Bodhicitta maintenant. Bodhicitta est étroitement connecté au vœu de Bodhisattva. Le vœu de Bodhisattva ou l'engagement de Bodhisattva consiste à développer, à éveiller Bodhicitta. La personne qui le fait est un Bodhisattva ou devient par là un Bodhisattva, un apprenti Bodhisattva, quelqu'un qui a le courage de vivre Bodhicitta, le courage d'éveiller son cœur et son esprit. Spécifique au Mahayana, cet engagement traite non plus d'une règle de conduite extérieure, comme dans le Hinayana, dans la discipline de vie du Hinayana, mais d'un état d'esprit, d'une motivation, d'une attitude intérieure, L'essence du vœu de Bodhisattva consiste à renoncer aux attitudes égocentrées pour s'engager dans une attitude résolument tournée vers les autres. C'est la compassion. Passer de l'égoïsme à l'altruisme. Ouvrir son cœur et son esprit au-delà de l'égoïsme dans une attitude de bienveillance altruiste. C'est la compassion. Entrer dans la voie des bodhisattvas et s'engager à faire l'échange de soi pour autrui, c'est-à-dire aussi faire passer autrui avant soi-même. Considérer les autres comme étant aussi importants que soi-même et finalement plus importants que soi-même. Dans l'entraînement au vœu de Bodhisattva, dans l'entraînement à Bodhicitta, il y a cet échange du moi pour l'autre, ce qui a beaucoup de sens, se mettre à la place de l'autre, ne pas faire à l'autre ce que l'on voudrait subir, considérer l'autre comme un autre soi-même, respecter l'autre comme soi-même, et ainsi dépasser l'attitude égocentrique et générer une attitude allocentrique dans l'égalité du moi et de l'autre, et même dans la capacité à considérer l'autre, les autres, comme plus importants que soi-même. C'est ainsi qu'il y a aussi ici une histoire qui est le sacrifice du messager. Une fois, sept personnes, plus précisément six moines et un messager, s'embarquèrent pour traverser une grande rivière. Quand ils furent arrivés au plus fort du courant, le passeur déclara: Nous sommes trop lourds, et si nous ne faisons rien, nous allons couler. S'il y en a un parmi vous qui sache nager, qu'il saute à l'eau. Sinon, c'est moi qui sauterai, et il faudra que l'un de vous prenne les rames. Mais aucun ne savait nager, et tous étaient bien incapables de mener la barque. Le messager dit alors: Plutôt que nous mourions tous, mieux vaut qu'un seul d'entre nous se sacrifie, et il plongea. Un arc-en-ciel apparut dans le ciel, ainsi qu'une pluie de fleurs, et alors qu'il ne savait pas nager, il atteignit miraculeusement l'autre rive. Sa pensée extrêmement pure réalisa ce miracle. Dans Bodhicitta, il est souvent fait référence à trois types de bodhisattvas. Alors, trois types de bodhisattvas qui ont trois types de bodhicitta, plus ou moins intenses et plus ou moins forts. Ce sont les bodhisattvas qui se comportent respectivement comme un roi, comme un berger ou comme un passeur. Se conduit comme un roi, celui qui conduit tous les vivants vers l'éveil en passant devant, en montrant le chemin, comme le ferait un chef. Se comporte comme un passeur, celui qui les amène en même temps que lui sur l'autre rive. Et comme le berger, poussant le troupeau, celui qui fait passer tous les vivants avant lui. Ces trois attitudes correspondent à des forces croissantes de la motivation de Bodhicitta, l'attitude du berger étant la plus profonde. En raison de sa nature, l'engagement de Bodhicitta diffère des engagements de la discipline extérieure. Il peut être comparé à un pot en or. et les autres engagements à des pots en terre. Lorsqu'un engagement ordinaire correspondant au pot en terre est brisé, il n'a plus aucune valeur. Alors que l'engagement de bodhicitta peut, comme un pot en or, être remodelé et refaçonné. Sa matière reste précieuse et peut être remise en forme. Dans l'engagement de Bodhisattva, Bodhicitta a ainsi une qualité particulière et exceptionnelle. Et s'il y a des manquements à notre motivation de Bodhisattva, il est possible de restaurer, comme de remodeler le pot qui reste toujours précieux. Un moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.